Arnaud Léonard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il s'agissait de recrutement de volontaires ou alors de recrutement contraint ?
Pour le cas de Madagascar, donc, il faudrait séparer donc, en effet les motivations, hein, puisque ce sont des engagements volontaires, mais le caractère contraint va s'affirmer de plus en plus à partir du moment où les nouvelles de la guerre vont arriver dans la grande île. Et si on a un certain enthousiasme chez les militaires de métier malgaches dans les premiers mois du recrutement encore, assez rapidement, on assiste à un tarissement du volontariat et le gouverneur donc, de l'époque, Hubert Garbi, va mettre en place tout un système de recrutement avec donc des incitations diverses, mais aussi des formes de contraintes, notamment en s'appuyant sur les autorités locales qui vont avoir pour mission de recruter des quotas d'hommes. Et on va assister donc à aussi des recrutements de personnes de moins en moins aptes, j'allais dire, ou en tout cas qui, en début du conflit, auraient été considérées comme inaptes. Globalement, donc, la motivation va surtout être à cette époque une motivation pécuniaire, c'est-à-dire pour des riziculteurs appauvris, des primes assez importantes offertes par les autorités et le gouverneur de Madagascar.
Quel était le profil de ces tirailleurs malgaches ? C'était des agriculteurs en majorité ?
Oui, hormis, donc, là encore, les familles qui avaient une tradition militaire, hein, qui ont des motivations qui sont des motivations de promotion, hein, qui espèrent que l'impôt du sang va déboucher sur une dette du sang et que donc la France elle pourra leur offrir la citoyenneté et la nationalité et leur permettre de garder ou d'acquérir une position sociale encore plus haute. Donc hormis le cas des grandes familles de Madagascar, la plupart donc des recrutés vont être des agriculteurs donc des hauts plateaux qui sont frappés par l'effort économique de la grande île. Madagascar doit livrer beaucoup de matières premières et ces paysans donc frappés par le manque de vivres dans le pays se retrouvent obligés en quelque sorte de profiter des sommes qui sont versées à ces hommes qui sont engagés pour la plupart dans des unités combattantes.
Alors ils espéraient, vous nous le dites, acquérir une position sociale plus haute. Est-ce que ça a été le cas au retour ?
L'impôt du sang a été une grande déception, d'abord pour les grandes familles qui très peu ont obtenu de naturalisation, et ensuite pour les agriculteurs et les riziculteurs qui étaient donc dans une situation précaire, le retour a été très difficile, retour donc dans la grande île qui ne s'est pas accompagné des gratifications qu'ils pouvaient espérer.
La plupart des tirailleurs malgaches ont été engagés dans des unités combattantes. Quel a été leur rôle précis, leur rôle effectif dans la Première Guerre mondiale ?
Le paradoxe a été le suivant, c'est que très peu de ces hommes, finalement, ont été au combat. On cite souvent l'exemple du 12e bataillon de tirailleurs malgaches, puisque c'est ce bataillon, le 12e, qui a été au feu et qui s'est illustré. Donc le paradoxe, c'est que ces hommes ont été recrutés comme des combattants et que très peu vont se battre concrètement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au front. Ils sont au front dans l'artillerie, comme des brancardiers, dans le génie, c'est-à-dire pour participer à la logistique et aux infrastructures de transport et des déplacements sur le front. Donc ce sont des hommes qui sont touchés directement par les combats, mais pas forcément par les balles. 80% des morts donc malgaches pendant le premier conflit mondial sont morts de maladie.
Alors on entend souvent parler des tirailleurs sénégalais, beaucoup moins des tirailleurs malgaches. Pour quelle raison ?
Tout simplement parce que la mémoire de ces tirailleurs a été une mémoire qui n'a pas été totalement accaparée par le pays lui-même, que ce soit à l'époque évidemment de la colonisation, hein, où on a des monuments aux morts, surtout à partir de 1923, 1924. Mais il faut rappeler que ce sont des monuments qui ne signalent aucun nom. On signale éventuellement des batailles, et notamment les batailles auxquelles on a pu participer le 12e bataillon de tirailleurs malgaches.
Quel souvenir la grande île garde-t-elle aujourd'hui de ses soldats ?
Donc le souvenir de cette participation de Madagascar à la Grande Guerre est un souvenir donc, qui s'est petit à petit perdu. Encore dans les années 60, on a quelques monuments qui sont construits pour se rappeler de ces hommes dans certains quartiers. Mais assez rapidement, dans les années 70, on a un oubli hein, de cette participation. La décolonisation s'accompagne souvent de l'idée que les hommes qui ont participé à cette guerre n'ont pas servi véritablement l'indépendance de leur pays. Donc cette mémoire va petit à petit se cantonner aux grandes familles militaires, mais dans le public, les monuments perdent leur signification. Le plus grand monument aux morts se trouve à Antananarive. Et ce monument, aujourd'hui, c'est à cet endroit que sont par exemple tournés tout un tas de clips de musique tropicale. Aujourd'hui, si on disait à des Français qu'on va tourner des clips de danse sur des monuments aux morts, ça nous paraîtrait pour le moins incongru. Pour les Malgaches, ça ne l'est pas parce que le sens, tout simplement, des monuments a en partie disparu.
Est-ce que les descendants des tirailleurs malgaches se mobilisent aujourd'hui? Est-ce qu'ils demandent quelque chose, une certaine reconnaissance?
Oui, il existe donc plusieurs associations d'anciens combattants à Madagascar qui réfléchissent et, donc, et qui font la promotion de la participation de la Grande Île dans la Grande Guerre ou dans les conflits postérieurs, je pense à la Deuxième Guerre mondiale aussi, mais aussi aux guerres de décolonisation. Donc ce sont des associations assez actives et leur préoccupation, évidemment, c'est la reconnaissance, mais aussi les droits qui ont finalement, mais petit à petit, été accordés aux combattants des colonies par la France.
Merci Arnaud Léonard.
Merci.